m'appelle Robert. J'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André de Mboujima, au Kata Oriental. Je réfute totalement ce que
tu dis. Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Parole aux auditeurs au cours de l'Assemblée Générale Ordinaire, excusez-moi, de la synergie des syndicats des enseignants de la RDC tenue le samedi dernier à Kinshasa. Les enseignants du secteur public et privé de l'éducation nationale ont dressé un bilan mitigé de l'année scolaire 2023-2024. En prévision de la prochaine rentrée scolaire, ces professionnels de la CRE recommandent au gouvernement sous-minois de convoquer les assises sur la politique salariale. Ils ont également plaidé pour la réforme en matière de rémunération dans l'administration publique et dans l'enseignement pour restaurer la confiance entre les gouvernants et les gouvernés. Il faut le rappeler, en dépit des efforts consentis par le gouvernement congolais pour améliorer les conditions de travail des enseignants, ces derniers estiment que pour relever la qualité de l'enseignement, il faut absolument que l'État congolais puisse offrir aux enseignants des salaires décents et aux élèves des infrastructures scolaires viables. Comment commentez-vous cette actualité? Vos réactions sont les bienvenues sur la page Facebook Parole aux auditeurs. Vous pouvez aussi intervenir en direct en composant les 099-716-80-79. Billy Landribetou est à la mise en ordre de ce magazine. Blaise Chindanier, Julie Feza Bongonda sur la réalisation. Sur la coordination au micro aussi, Marcel Ngomombala, toutes et à tous, et sans condition d'écoute de ce nouveau numéro de Parole aux auditeurs.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Merci de votre fidélité à Radio Capi, la fréquence de la paix. Merci, comme chaque fois que le sujet est posté, d'avoir été nombreux à réagir sur la page Facebook Parole aux auditeurs, mais aussi à vous être inscrits pour réagir en direct et pour échanger avec vous, chers auditeurs, sur ces sujets. Nous avons en ligne Jean Bosco Pouna. Jean Bosco Pouna, bonjour.
Oui, bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes porte-parole de la synergie des syndicats des enseignants de la RDC. Et il faut le rappeler, le samedi dernier, au cours de l'Assemblée générale ordinaire de cette synergie de syndicats des enseignants de la RDC, il y a eu, en tout cas, cette synergie a fait un bilan mitigé de l'année scolaire 2023-2024. Alors pourquoi vous parlez d'un bilan mitigé?
Oui, allô?
Oui, justement, pourquoi au cours de votre assemblée générale tenue le samedi dernier, la synergie de syndicats des enseignants de la RDC qui a dressé un bilan concernant l'année scolaire 2023-2024, vous parlez d'un bilan mitigé. La question est de savoir pourquoi, selon vous, il s'agit d'un bilan mitigé.
Ah bon, il faut dire que le bilan est considéré d'être mitigé dans la mesure où nous avons assisté pour la première fois à une gouvernance, je dirais, très faible de ce ministère. Nous avons vu, par exemple, sur le plan de la gestion du ministère, nous avons remarqué qu'il y a eu beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de dysfonctionnements causés par l'ancien ministre de l'EPC. Et ces dysfonctionnements sont caractérisés, par exemple, par une retraite irrégulière que le ministre a imposée aux enseignants, une retraite qui ne repose sur aucun soubassement juridique, et ça, c'est un véritable problème. L'autre problème qu'on a eu à déplorer, c'est la désactivation de près de 3000 enseignants. Mais lorsque ces enseignants ont été réactivés, eh bien, leur salaire n'était pas payé. Donc, il faut dire que là aussi, c'était un problème. Il y a également le problème de salaire. Vous savez que le gouvernement avait fait beaucoup de promesses, mais les différents paliers que le gouvernement avait promis n'avaient pas été payés. Regardez, un autre problème qu'on a relevé, c'est le problème de bulletins. Comment ça peut arriver que lorsque les enfants terminent l'année, et que les écoles ne soient pas capables de pouvoir donner les bulletins aux parents, aux élèves. Ce sont les billets de vacances sur lesquels on écrit simplement les résultats annuels. Et donc, ça ne permet pas que les parents puissent être en mesure de pouvoir suivre les enfants pour commencer l'année qui vient. Et un autre problème qui a vraiment dérangé, c'est la caporalisation de l'inspection générale de l'enseignement. En fait, l'inspection générale de l'enseignement qui a dans ses missions la formation, les contrôles et l'évaluation, on a privé l'inspection générale de l'enseignement de sa mission d'évaluer. Vous avez vu l'année 2023-2024, pour la première fois, on a fait l'examen d'État, mais avec une deuxième session. C'était des résultats controversés. Alors, si vous mettez tout ça ensemble, on se rend effectivement compte que c'était une année très difficile, une année qui n'a pas réussi, sans parler de la gratuité de l'enseignement. Au niveau primaire, vous avez des enseignants avec des primes disparates, avec des primes différentes. Il y en a qui touchent 60 000 francs congolais au moment où sur le listing c'est libellé 80 000, mais il ne touchait que 60 000 et jusqu'à aujourd'hui ça continue. Il y en a d'autres qui touchent 200 000, donc tout ça n'a pas permis que le travail puisse se faire normalement. Voilà pourquoi nous avons dressé ces bilans tout à fait négatifs de notre part. Et je crois qu'il y a lieu de maintenant de pouvoir corriger comme nous avons une nouvelle tutelle.
Alors, vous avez cité un certain nombre de dysfonctionnements et vous avez également relevé le fait qu'il y a une deuxième publication. Mais au niveau de l'enseignement primaire, secondaire et technique, on n'aime pas bien qu'on parle d'une deuxième session parce que les élèves ne sont plus rentrés dans des salles d'examen d'État pour présenter encore une fois l'examen d'État. Mais c'était plutôt lié à quelques problèmes de publication avec les entreprises concernées.
Non, non, non. Vous savez quoi? L'évaluation est faite exactement par l'inspection générale de l'enseignement. Il y a des personnes qualifiées, des personnes expertes qui doivent faire ce travail. C'est donc les inspecteurs. Malheureusement, pour 2023 pour 2024, les inspecteurs avaient été mis de côté. Vous comprenez? Et donc, on a recruté deux agences qui devrait faire ce travail. Donc, il y avait véritablement des problèmes au niveau technique, parce qu'aujourd'hui, l'examen d'État est informatisé. Et donc, si vous recourez à des personnes inexpertes, eh bien, on va avoir le travail qu'on avait. Les élèves ne sont pas rentrés, certes, pour faire d'autres examens. Ça ne peut pas se passer comme ça. Mais les premiers résultats qu'on avait affichés, c'était des faux résultats. C'est-à-dire, l'agence qui a fait le travail n'était pas au point de pouvoir nous faire un travail correct. Et ça, c'est les ministres, parce que, bon, ils ne voulaient pas recourir aux inspecteurs qui ont l'habitude de faire ce travail. Vous comprenez? Simplement parce que, bon, il y a les bouts du lucre, et c'est ce qui a fait que ces résultats soient des résultats controversés. Et aujourd'hui, je crois que les inspecteurs sont en train de faire le travail. Nous attirons l'attention. Parce que n'oubliez pas que l'examen d'État, c'est l'épreuve la plus prestigieuse de notre système d'enseignement.
Donc Jean Bosco,
et lorsqu'elle est dévoyée,
oui,
là, ça ne marche pas.
Et vous pensez que c'est un faux fuyant de dire que c'était des opérateurs de communication, partenaires de la publication de ces des résultats de l'épreuve des épreuves d'examen d'État? C'est un faux fuyant de dire que c'était plutôt un dysfonctionnement de leur côté.
Non, 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 c'est un véritable faux fuyant. Mais pourquoi plusieurs années avant, cela ne s'était-il pas produit? Les opérateurs de communication, ceux-là qui ont la charge aujourd'hui de publier les résultats, eux reçoivent tout ce qui a été fait au niveau des experts. Donc, eux ne peuvent pas travailler, une fois de plus, ce qui leur est présenté. Donc, les résultats qui ont été présentés auprès de ces opérateurs, ce sont ces résultats-là qui étaient controversés. Maintenant, nous, en tant que syndicat, notre problème, c'est quoi? C'est qu'on puisse améliorer. Il faut laisser l'évaluation à l'inspection générale de l'enseignement, et c'est elle qui est habilitée à faire ce travail. Quand elle l'aura fait, elle va remettre les résultats à ceux qui doivent publier. Même là, il y a des problèmes à redire par rapport au financement, par rapport au fonds que génère cette publication. Mais le plus important, c'est que les inspecteurs, l'inspection générale de l'enseignement, puissent véritablement faire ce travail au lieu d'aller recruter des personnes non attitrées.
Alors, vous estimez donc qu'il faut absolument qu'au niveau du nouveau gouvernement de convoquer ces assises de manière à ce que vous puissiez ensemble avec le gouvernement passer en revue à tous ces problèmes liés à l'année scolaire 2023-2024, pour voir dans quelle mesure faire en sorte que tout se passe bien au courant de l'année scolaire 2024-2025, notamment pour ce qui est de la rémunération, pour ce qui est du salaire des enseignants, même si il faut le dire qu'on n'a pas cessé d'entendre dire avec le tout dernier gouvernement qu'il y a quand même des efforts qui ont été consentis pour améliorer les conditions salariales des enseignants.
Bon, il faut dire que c'est très difficile. Vous savez, lorsque vous donnez à un inspecteur d'État, 390 000 francs congolais, vous comprenez que le travail ne peut pas être de qualité. Et donc, celui-là, c'est très compliqué. Le gouvernement a fourni des efforts, certes, mais je crois que ce n'est pas encore suffisant. Parce qu'aujourd'hui, la situation est dramatique. Voilà pourquoi nous, au niveau de la synergie, nous en appelons à la mise en place de la politique salariale. Il faut que le gouvernement élabore une politique salariale qui puisse sécuriser tout le monde. Et je crois que le chef de l'État y est revenu. Il juge que ce que nous utilisons aujourd'hui, le système de paiement que nous avons aujourd'hui, est injuste. Il est inacceptable, et ça c'est les propos du chef de l'État lui-même. Et donc, il faut absolument changer le système de rémunération. Voilà pourquoi, pour nous, au niveau de la synergie, nous disons qu'il faut absolument que nous ayons une politique salariale qui tienne compte du principe constitutionnel de l'équité. On ne peut pas comprendre que les uns ont des salaires pharaoniques et que les autres ne puissent rien avoir. Les enseignants n'ont presque rien. Un enseignant qui est à Boma, qui est à Kasangulu ou qui est dans les Kasai, eh bien, il touche combien? Il a plus ou moins 250 000 francs congolais. Aujourd'hui, les salaires aussi entre 130 et 150 dollars, vous comprenez? Avec la perte du pouvoir d'achat, c'est difficile de pouvoir faire le travail. Donc, si les travaux de la politique salariale sont convoqués, eh bien, ça va sécuriser les enseignants, ça va sécuriser tous les agents de l'État, parce que nous tous, nous émargeons du trésor public. Alors, le conseil que nous donnons à Madame la Première ministre, c'est celle de pouvoir convoquer d'abord la commission préparatoire des travaux de la politique salariale. Cette commission préparatoire va devoir déterminer le nombre et la qualité des participants. Ça va devoir déterminer les matières à aborder en toute transparence, c'est-à-dire définir les termes de référence. Ça va déterminer également la hauteur du budget pour qu'il y ait véritablement redevabilité et transparence, mais ça va également déterminer la durée des travaux. Et c'est maintenant qu'il faut le faire, parce que le 2 septembre, ce n'est pas longtemps, et même la rentrée académique. Je crois qu'il y a grogne partout, que ce soit au niveau de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, que ce soit au niveau de l'enseignement supérieur, que ce soit au niveau des agents de l'État, on n'a pas un barème. Alors nous attendons ce barème qui doit provenir de la politique salariale, et je crois que, comme le chef de l'État l'a dit, on va devoir intéresser toutes les parties prenantes. Vous savez que la synergie a toujours été discriminée parce qu'il porte véritablement les revendications des enseignants, mais je crois que cette fois, Madame la Première ministre va devoir privilégier les recommandations du Conseil des ministres du 28 juin pour que finalement nous ayons un barème qui puisse sécuriser tout le monde et permettre à tout le monde de pouvoir faire correctement le travail.
Voilà, Jean Bosco Pounan, on revient à vous. Le temps pour nous de nous tourner vers le standard. Il y a déjà des auditeurs qui aimeraient réagir. Nous avons Amos Bissimoua qui nous appelle de Bukavu. Également Peter Maboudi qui est ici à Kinshasa. Bienvenue. Si vous nous rejoignez sur la fréquence de la paix, c'est votre magazine d'échange citoyen. Parole aux auditeurs. Aujourd'hui, nous parlons de cette assemblée générale ordinaire de la synergie des syndicats des enseignants de la RDC tenu les samedis derniers à Kinshasa. Les enseignants du secteur public et privé de l'éducation nationale ont dressé un bilan mitigé de l'année scolaire 2023-2024. En prévision de la rentrée scolaire prochaine, ces professionnels de la CRE recommandent au gouvernement sous Minois de convoquer les assises sur la politique salariale. Et si vous voulez intervenir, le numéro d'appel, c'est le 099-716-80-79.
Pour s'informer, de plus en plus d'internautes choisissent RadioCapi.net. Chaque mois, vous êtes plus d'un million à nous suivre sur www.radiocapi.net et votre avis nous intéresse. Chaque jour, une question d'actualité est à la une du site, plusieurs propositions. Exprimez votre opinion.
Voilà, avant d'ouvrir le standard, je m'en vais lire rapidement deux réactions sur la page Facebook par aux auditeurs. Je l'ai dit, vous étiez nombreux à réagir par rapport à ces sujets. Merci beaucoup. Il y a Augustin qui nous écrit depuis Kanango, Kasaï Central. Étant un professionnel de la créé, le participant a dressé un bon bilan, mais on peut ajouter encore que la meilleure sélection d'engagement, car un homme qu'il faut mettre, c'est celui qui donne, qui doit surtout valoriser notre monnaie, éviter les zones salariales, oubliant que c'est le même travail. Là, je pense qu'il parle de la politique salariale dont a évoqué Jean Bosco à Puna. Une autre réaction, c'est André Lunga qui nous écrit depuis Kinshasa. Les problèmes de l'enseignement est à prendre au sérieux, car c'est même la priorité des priorités. En effet, l'enseignant forme le médecin, les agents de l'ordre et de sécurité, les présidents, les ministres et mandataires, bref, tous les cadres dont le pays a besoin passent par l'école. Le problème dans notre pays n'est pas que salarial, il faut en plus parler du contenu même de ce qui est prévu comme matière et tous les aspects décoratifs. Voilà, c'est une réaction d'André Ilunga. Il se présente comme analyste politique et socio-économique. Il est ici à Kinshasa. On revient au standard pour accorder la parole au premier auditeur qui est en ligne, Amos Bissimoa, qui nous appelle depuis Bukavu. Bonjour Amos.
Bonjour Marcel, bonjour à tous les auditrices et auditeurs de la radio Okapi. Bonjour à l'invité Puna qui est présentement dans votre studio.
On vous écoute, il est en ligne quelque part ici à Kinshasa. On vous écoute Amos Bissimoa, allez-y.
Merci bien. Au fait, en analysant le tableau que venait de peindre votre invité, on comprend que le secteur de l'enseignement dans notre pays continue à causer de sérieux problèmes et que nos autorités ne s'intéressent pas de ce secteur. Oubliant ce que certains internautes venaient d'écrire et le message que venaient de lire au studio. Ils oublient qu'on ne peut pas être président de la République, on ne peut pas être juge, on ne peut pas être député, on ne sera jamais gouverneur ou ministre ou chef d'avenir quand on n'a pas étudié. Et la question que beaucoup de gens se posent, est-ce que nos dirigeants parviennent à évaluer ce qu'ils ont été et pourquoi ils le sont aujourd'hui? Et ce qui est grave, ils se comportent ainsi dans notre pays parce que leurs enfants étudient dans de bonnes conditions en Europe et c'est là avec les moyens du contribuable congolais. Au fait, Marcel, la question de l'enseignement continue à révolter tout le monde. L'invité a tout dit. Et la politique salariale n'est pas respectée dans notre pays, sauf pour les politiques. Vous avez suivi le débat dernièrement au niveau de l'Assemblée pour ce qui est du salaire du député. On nous a menti que c'était 5 000. Vous voyez quelqu'un abandonné son travail dans des ONG, dans des institutions publiques de l'État, et vouloir se faire élire comme député pour aller commencer à se battre pour 5 000 dollars le mois. Ça ne passe pas 14 millions de francs congolais. Et même, il faut voir les moyens que les politiciens perdent au niveau des instances judiciaires à la Cour constitutionnelle pour valider leur mandat si une fois ils ont été invalidés. Et puis nous dire, tromper les Congolais, qu'ils seront en train de toucher 5 000 dollars le mois. Ça c'est humiliant.
Alors, Amos Bissimoa, donc, vous êtes d'accord avec cette synergie des syndicats des enseignants de la RDC, qui recommande au nouveau gouvernement de convoquer les assises sur la politique salariale. Donc, vous êtes d'accord par rapport à cette recommandation?
Justement, tout le monde est d'accord avec cette initiative des enseignants. Mais la question qu'on doit se poser, est-ce que aussi l'enseignant ne serait pas sacrifié par les syndicalistes en complicité avec nos politiciens? Parce que, Marcel, à la veille de chaque rentrée scolaire, on a toujours assisté à de telles comédies. Et c'est la question que j'adresse à l'invité. Mais la suite, c'est catastrophique. Des fois, on les invite, on les appelle, je ne sais pas, c'est en Boudi, là où on les a dernièrement amenés. Et la suite est catastrophique pour d'autres enseignants. Dans des territoires avec la gratuité, rien ne va. On a détruit, avec cette gratuité, on a détruit notre système éducatif. Et beaucoup de gens aujourd'hui disent, au lieu que cette gratuité soit technique elle a plutôt été politique. Et avec ça, notre système éducatif aujourd'hui est dans la rue. Moi, je pense, regardant le salaire que touche aujourd'hui un enseignant, difficilement 240 000 francs. Au moment où le politique vous touche des milliers et des milliers de dollars, ça peut se passer aussi, ce n'est pas en RDC. Et en longueur de journée, patriotisme, patriotisme, il fallait que nos dirigeants, commençant par les chefs de l'État, avec son slogan « Le peuple d'abord », comprennent que pour qu'il y ait la paix, il faut d'abord qu'il y ait la paix sociale. Qu'on ait à manger, que ses enfants aillent à l'école dans de bonnes conditions. Voilà là où on doit commencer.
Voilà, merci. À longueur de journée, patriotisme, merci Amos Bissimwa d'avoir appelé depuis Bukavu. On revient à Kinshasa. Voilà, pour écouter Peter Maboudi. Bonjour Peter Maboudi.
Bonjour Marcel, bonjour à notre invité et à tous les auditeurs de la radio Capi.
Vous avez la parole.
Merci beaucoup Monsieur Marcel. Je tiens d'abord à rappeler que dès la session à la magistrature suprême de notre chef de l'État à l'étranger, on lui a posé la question sur le niveau de l'enseignement dans notre pays. Le chef de l'État lui-même avait reconnu que les enseignants de notre pays ne maîtrisent pas leur matière, quand bien même je suis également enseignant. Et après ça, il a lancé la gratuité de l'enseignement, bien sûr salué par tout le monde, et avec des effets collatéraux que nous constatons sur le terrain liés à la qualité de l'enseignement. Nous avons accepté la politique salariale, nous acceptons. L'invité a dit qu'il faut nécessairement, parce qu'il y a un nouveau gouvernement, qu'il faut se réunir, il faut qu'il y ait des rencontres. Et Amos venait de rappeler, M. Marcel, est-ce que c'est la première fois que le banc syndical des enseignants et le gouvernement se retrouvent pour discuter des conditions socio-professionnelles des enseignants? Ce n'est pas la première fois. Et pourquoi toutes ces assises qui ont eu lieu depuis que le gouvernement et le banc syndical ont eu à initier des initiatives, on n'a pas abouti. Depuis qu'ils ont initié, est-ce que ça aboutit au résultat escompté? Non. Faut-il aujourd'hui encore continuer à négocier avec le gouvernement qui, malheureusement, ne tient pas aux engagements? Point d'interrogation. Donc, il est question, je tiens à préciser que, M. Marcel, sans une bonne éducation de la jeunesse, le peuple est voué à la déchéance. Amos a si bien souligné combien d'enfants de nos dirigeants étudient au pays. Ils sont à l'étranger. Pourquoi ils sont à l'étranger? Et ici, nous qui avons des enfants au pays, nous qui avons étudié au pays, nous continuons toujours à souffrir. Parce qu'ils préparent déjà leur avenir. Que dès que leurs enfants terminent, directement, ils sont au sein des institutions du pays pour diriger nos enfants, pour nous diriger davantage et nous maintenir dans ces mêmes conditions pour que nous puissions toujours continuer à vivre ainsi. Je crois que je tiens à rappeler, nous avons des lois qui régissent le secteur de l'enseignement.
Mais Peter Maboudi, vous avez dit vous êtes vous-même enseignant, c'est bien cela?
Absolument, j'ai enseigné depuis 2016, j'étais dans le public.
Voilà, alors la question que j'aimerais vous poser, parce que vous l'avez dit, Amos a relevé cet état des choses par rapport à tout cas au syndicat des enseignants qui essayent presque chaque année de faire un bilan de l'année scolaire passée et de voir comment entamer d'une autre façon l'année scolaire suivante. Mais vous avez apparemment vous aussi deux fois vous êtes méfiant vis-à-vis de ces syndicats par rapport au rôle qu'ils jouent.
Non, monsieur Marcel, moi je n'ai jamais œuvré chez l'État. Pourquoi j'avais refusé? J'ai enseigné une année chez le public et le reste des années, depuis 2016, je suis chez les privés. Je sais pourquoi je suis chez les privés. Parce que l'État congolais ne respecte pas les engagements. Chez les privés, oui, je suis libre et vis-à-vis de mon employeur, je sais comment on négocie. Mais chez l'État, quelles que soient les négociations, l'État ne tient pas vraiment sur sa parole. C'est pourquoi moi-même, même dans le privé, lorsque je constate que il y a des problèmes qui me lient entre moi et mon employeur, il y a d'autres procédures que j'emprunte légalement établies dans nos lois. Donc, s'il faut réclamer un droit, les droits qui ne se réclament pas, c'est peur. Donc, je crois que les syndicalistes qui sont là pour représenter les enseignants qui souffrent, les misérables enseignants congolais, doivent entamer d'autres procédures légalement établies. Donc, je crois que pour les régimes, pour les dirigeants, aider les dirigeants congolais à penser pour les autres, il faut qu'il y ait une pression. Et la pression est légalement établie. Dans le code du travail, il y a les droits établis.
Lorsqu'on constate que les gouvernements n'arrivent pas à respecter les engagements pris depuis longtemps, il y a une autre procédure qui est légalement établie. Et là, l'État sera face à ses responsabilités de s'engager efficacement pour résoudre le problème des citoyens, M. Marcel. Je tiens encore à préciser, il a brossé le bilan des salaires des enseignants. Moi-même, nous étions en campagne. Beaucoup de candidats députés qui sont aujourd'hui au Parlement, ils savent combien des enseignants souffrent. Ils étaient en campagne. Ils ont les desiderata de ces enseignants-là. Est-ce qu'ils pensent à ces gens-là? La moyenne qu'il a parlé de 250 000. Aujourd'hui, 250 000 francs congolais, quand vous évaluez au taux actuel de dollars, c'est moins de 100 dollars. Est-ce que si, nécessairement, on a la conscience, avec quelqu'un qui est payé 100 dollars, moins de 100 dollars le mois, et les conditions dans lesquelles il enseigne, il n'y a pas d'ouvrage, les enfants se mettent même à cœur, donc, il n'y a pas de tableau. Vous attendez à quelle qualité de l'enseignement? Donc, nous avons toujours proposé des solutions au gouvernement. Du fait que le gouvernement fait sous d'oreille, plus c'est la politique qui occupe la première place dans notre pays, je crois que les syndicats doivent aider également les enseignants à entamer une autre procédure pour que le gouvernement puisse prendre les responsabilités qui sont les leurs, voilà, vis-à-vis des enseignants. Et c'est là, justement, pour la garantie de l'avenir. Moi, je suis jeune, M. Marcel. Je me pose la question, si nous, aujourd'hui, on arrive à se retrouver par rapport à ça, c'est parce que nos parents n'ont pas eu le temps de s'engager. Nous ne pouvons pas être encore complices de nos enfants si et seulement si nous ne nous engageons pas pour trouver une solution définitive. Et je tiens à préciser encore une chose. Le gouvernement congolais, les dirigeants qui nous dirigent, doivent comprendre que le peuple a tant patienté. Ce qui est arrivé au Kenya risque d'arriver au Congo si et seulement s'ils ne prennent pas les responsabilités. Le peuple est déjà éveillé. Nous ne sommes plus encore dans le siècle passé où on devrait tolérer
ne
tout.
Ne soyez pas un prophète de malheur. Ne soyez pas un prophète de malheur, Peter Maboudi. On a compris pour vous, c'est pas la première fois qu'il y a le syndicat qui recommande des assises par rapport à tout ce qui se passe dans les secteurs de l'enseignement. Mais vous souhaitez que moi, le gouvernement, puisse tenir compte de ces recommandations et de voir dans quelle mesure il faut trouver des solutions au problème des enseignants. Cela permettra certainement de relever la qualité de l'enseignement en RDC. Merci Peter Maboudi d'avoir appelé depuis Kinshasa. Jérémy Mamba, vous êtes à Lubumbashi. Et bonjour Jérémy.
Oui, bonjour Monsieur Marcel, hein, bonjour également à l'invité. Hein. Je pense que les enseignants ont raison sur toutes les lignes lorsqu'ils expriment leur ras-le-bol, n'est-ce pas, au sein de l'Assemblée Générale Ordinaire de la synergie des syndicats. C'est pour la simple et bonne raison, et il y a un secteur aussi qu'on oublie le plus facilement et à tout moment, c'est celui de l'enseignement. Si nous pouvons ajouter peut-être aussi l'armée ainsi que la fonction publique. Mais ici, si nous voulons nous focaliser dans les registres de l'enseignement, nous disons que vraiment, le plus grand problème réside au niveau du sommet de l'État. Ça veut dire quoi? Un, on doit placer vraiment des gens capables de pouvoir donner des instructions valables. Vous ne pouvez pas placer dans un secteur aussi épiné comme celui de l'enseignement quelqu'un qui ne maîtrise pas les rouages de l'enseignement, ou soit quelqu'un. Non, chacun a son domaine précis. Ça veut dire que, vous voyez ce que nous avons connu il y a longtemps et il y a peu ici, et il y a l'examen d'État qui n'est pas organisé comme il se doit, des enfants sont sacrifiés totalement, tout simplement à cause de ce que nous décrions à tout moment. La baisse de l'enseignement aujourd'hui dont nous décrions est résultant de tout ce désordre qui est organisé. Moi, je voudrais maintenant à ce stade, quand vous regardez aujourd'hui les secteurs privés, essayent d'évoluer un peu mieux, mais ce sont ceux-là, vous regardez, ils sont beaucoup combattus par ceux qui sont placés au ministère. Et vous allez voir quand l'année va commencer, vous allez voir qu'on va plus s'attaquer aux écoles privées, et pourtant l'État a abandonné totalement son rôle. Ce sont les écoles privées qui essayent d'épauler l'État avec les niveaux qu'il y a un niveau un peu appréciable. Les niveaux baissent, pourquoi? Parce que le salaire de l'enseignant est totalement misérable. L'enseignant se présente en un parent pauvre. Quand vous regardez, qu'est-ce qu'il va produire? Lorsqu'il n'y a pas motivation, cela va aussi avec ce qu'on rend sur le terrain. Ce qui veut dire que lorsqu'il n'y a pas la motivation, vous allez voir que sur le terrain, on ne présente que des choses de cousues. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes en train de décrier le niveau de l'enseignement. C'est qu'il faut, il faut que le gouvernement, qui est là présentement, chapeauté par Madame la Première ministre, qu'elle puisse s'y atteler avec toute son équipe pour pouvoir s'atteler, voir qu'est-ce qu'il faut également avec le Parlement congolais. Le Parlement congolais qui est le patron budgétaire et donc qui est le patron du budget, qu'est-ce qu'il fait réellement
gouvernement pour pouvoir, n'est-ce pas, rectifier les tirs. Moi, je préfère qu'on puisse organiser un grand atelier qui regroupe tous les secteurs, parce que il y a des inégalités sociales. Il y a, donc on répartit les choses de manière inéquitable. Il y a les uns qui sont favorisés au détriment des autres. Tout ça, ce n'est pas correct dans un même pays où quelqu'un qui est licencié ici en enseignement, mais qui touche un salaire misérable par rapport à celui qui est quelque part. C'est pourquoi aujourd'hui les universités se vident de tous ces professeurs. Ils vont en politique où la vie est facile. Et voilà, aujourd'hui nous décrions le niveau de l'enseignement, c'est à tous les niveaux, à partir de la fondation jusqu'au sommet, là où nous sommes en train de produire l'élite congolaise. C'est vraiment, notre pays est en train de perdre de toute sa valeur, tout simplement parce que nous sommes en train de produire des cadres qui n'ont pas de valeur sur le terrain, tout simplement parce qu'il y a une négligence totale dans ce domaine de l'enseignement. Et aussi sur l'aspect technique. Quand vous regardez les bulletins, nous avons nos enfants. Quand vous regardez le bulletin, vous regardez, vous présentez, vous dites que mais ce sont les commerçants qui élaborent le bulletin ou ce sont des techniciens, des pédagogues attitrés. Ce n'est pas correct. Vous trouvez un bulletin qui ne répond pas vraiment aux normes, qui n'a pas... Vous regardez le maximum, on présente par exemple, j'ai vu chez mon fils, on écrit technologie là, on met les points et puis on écrit total, mais il n'y a pas un sous-total. Des choses comme ça, nous disons que non, à partir seulement du bulletin, nous sommes en train de voir qu'il n'y a pas de sérieux dans ce domaine. Il faut que réellement nous puissions nous amender, commencer à mettre de l'ordre dans ce secteur. Je pense que madame qui est là maintenant à la tête du ministère doit vraiment corriger les choses que son prédécesseur a lamentablement échoué avec l'histoire de la deuxième session ou des repêchages. Ça n'a pas honoré notre pays, c'est une descente aux enfers. Si nous voulons que notre pays retrouve ses horizons ou ses facettes normales, il faut qu'on commence à organiser un grand atelier qui doit regrouper tous les secteurs et avec un point focal pour voir l'enseignant doit retrouver un salaire correct.
Mais Jérémy, vous avez suivi, il y a Moss qui a relevé cet aspect des choses. Il y a également Peter Maboudi qui est revenu sur ça. Les assises, les ateliers, c'est pas ce qui n'a jamais été fait dans ce pays, mais c'est plutôt la matérialisation de recommandations issues de ces assises ou de ces ateliers qui a toujours posé problème au niveau du gouvernement.
Exact, monsieur Marcel. Parce que nous disons, c'est à tout moment, monsieur Mpunga, ce n'est pas aujourd'hui qu'il est là, c'est à tout moment. On a déjà fait beaucoup de numéros avec lui dans les mêmes secteurs, mais nous disons, les syndicats, nous sommes en train de voir, c'est comme si ils sont jugés partis. Ils doivent quand même s'imposer. C'est comme nous disons, c'est comme la presse. C'est un pouvoir aussi qui doit exercer entre les pouvoirs et les enseignants. Ça veut dire que les rôles à jouer, ça veut dire les choses ne marchent pas dans ce pays. Tout simplement, un seul secteur a paralysé tous les secteurs, c'est l'enseignement. Parce que lorsque l'enseignement est pris en compte et que les niveaux est haussé, vous allez voir que même ceux qui sont au DPI, qui vont dans les assemblées nationales et l'Assemblée nationale ou Parlement, pouvait peut-être rester, peut-être faire autre chose, mais tout le monde, les universités se vident, monsieur Marcel, je vous dis. Moi, j'étais à l'ISP, j'étais à l'ISC, j'ai vu que actuellement on n'a pas de professeurs. Donc, ça veut dire que tout le monde va être en politique où la vie est facile. Mais alors, nous, si nous voulons mettre les choses sur l'orbite, il faut nécessairement que nous puissions mettre les salaires équitables pour tout le monde. On sait voir qu'un diplômé doit avoir autant, un licencié, etc. Là, nous pouvons mettre de l'ordre, mais pas ce que nous sommes en train de voir. Nous voyons que le problème, c'est la tête de, donc, les manques de conscience et de volonté politique.
Mais voilà. Si merci beaucoup, Jérémy Mwamba, depuis Lubumbashi. On revient à Kinshasa, pour accorder la parole à Obed, qui est en ligne. Oui, bonjour, Obed. Obed, il me semble qu'il n'est plus en ligne. Alors, je m'en vais lire cette réaction de Livier Kaindo depuis Kikwit. Cette demande des enseignants de la RDC adressée au gouvernement est une preuve éloquente non seulement de l'absence de la justice distributive de revenus nationaux, mais aussi et surtout de la non-application du SMIC en faveur des travailleurs congolais, ce qui implique des salaires à géométrie variable entre les travailleurs qui ont le même rang. Cette attitude en RDC est une des sources des conflits à tous les niveaux et met cette étendue difficulté tout tout azimut de créer de nouveaux emplois. La RDC est un mauvais élève en matière d'application effective des normes et du travail. À mon sens, la solution durable relative à cette demande formulée est l'application effective des normes de travail en RDC. C'est ce qui constitue le socle de la paix sociale et le pourvoyeur inconditionnel de l'emploi en RDC. On revient à notre invité qui est en ligne, Jean Bosco Pouna. Jean Bosco Pouna, vous avez suivi les uns les autres. Comment réagissez-vous? On me fait signe que Jean Bosco Pouna est en ligne. Voilà, Jean Bosco Pouna, vous êtes en ligne.
Oui, je suis bel et bien en ligne.
Voilà, c'est bien que vous êtes toujours en ligne. Alors, vous avez suivi les réactions des uns des autres. Qu'est-ce que vous avez à dire?
Bon, d'abord, les remercier tous pour leur intervention, l'approche qu'ils font. Je crois que c'est l'approche même de notre société. Je voudrais dire un petit mot par rapport à notre camarade Jérémy. Jérémy est revenu sur la politique salariale pour dire que ça va concerner les enseignants. Non, je précise ici que la politique salariale concerne les enseignants, les professeurs d'université, les magistrats, les médecins. Donc, ça concerne tous les agents et fonctionnaires de l'État. Si nous avons une politique salariale, ça va donc sécuriser tout le monde, tous ceux-là qui émargent du budget de l'État. Et donc, il faut absolument qu'on mette à contribution d'abord Madame la Première Ministre, qui doit rapidement convoquer les travaux, mais aussi le ministre de la fonction publique, le VPM à la fonction publique, parce qu'il leur revient à pouvoir faire ce travail. Donc, de ce côté-là, Jérémy peut véritablement s'apaiser. Il y a un autre fait qui a été souligné par Amos, et il a raison. La gratuité ne doit pas s'arrêter au niveau de la forme. Il faut allier la forme au fond. Et aujourd'hui, c'est vrai, nous pouvons beau dire, nous avons près de 6 millions de nouveaux enfants qui ont rejoint le circuit scolaire, mais s'il n'y a pas la qualité de l'enseignement donné aux primaires, eh bien là, c'est un véritable piège. En ce moment-là, la gratuité devient un piège. Il y a un autre souci, c'est celui-là des syndicats qui participent aux différentes négociations. Laissez-moi vous dire que le gouvernement convoque les travaux, les négociations, toujours sur fond des ruses. Alors, les syndicats porteurs des revendications, très souvent on les met de côté, vous savez que le vrai syndicat que nous portons a connu beaucoup de problèmes. La synergie est toujours discriminée, Dieu merci. Le président, quand il s'adresse au gouvernement, quand il tient le conseil des ministres, il s'est adressé à eux pour dire que toutes les parties prenantes doivent participer à ces travaux. Et je crois que Madame la Première ministre va devoir tenir compte de cela. Parce que qu'est-ce qui arrive? On prend des syndicats clients, on prend des syndicats qui sont dirigés pour la plupart par des directeurs, par des inspecteurs. Ben, ils sont jugés partis et ils ne peuvent pas valablement défendre les enseignants. Dans les négociations, le principe est clair. Il faut partir, il faut prendre ceux-là qui portent la revendication. Et je crois que si on prend ceux qui portent la revendication, notamment la synergie qui a soulevé le problème de la politique salariale...
Jean Bosco, il n'y a pas deux enseignements en RDC, il y a un seul enseignement. Qu'est-ce qui fait que souvent dans les revendications, il n'y a pas harmonisation des vues entre les différents syndicats?
Bon, il n'y a pas harmonisation de vie, mais le problème, c'est quoi? C'est qu'il faut absolument que ce soit des véritables syndicats qui sont des interlocuteurs devant le gouvernement. Mais si c'est le prolongement du gouvernement dans les syndicats, ça pose problème. Ici, j'ai dit qu'il y a des préalables. Pour convoquer ces travaux, il nous faut d'abord une commission préparatoire. Parce que là, on va devoir déterminer la qualité de ceux qui doivent prendre part à ces assises-là. Il ne faudrait pas qu'il y ait sur-représentation du gouvernement, des membres du gouvernement. En ce moment-là, ça fausse tous les calculs. Et c'est là le véritable danger. Bon, un autre problème que je voudrais aborder, c'est le problème de qui a été souligné ici par, je crois, Peter, qui a parlé de moyens. Hein, par Amos. Il a parlé de moyens qui sont tout à fait déséquilibrés. C'est-à-dire, vous avez un budget où près de 70% sont récupérés, les revenus sont récupérés presque par les politiques. Et donc, on laisse une petite part aux agents de l'État, à la masse laborieuse. Alors en ce moment-là, il y a un véritable déséquilibre. S'il faut prendre le fonctionnement, les investissements, les équipements au niveau de l'enseignement, eh bien ça va poser problème. On doit renverser cela pour que finalement le gros du budget puisse revenir à la masse laborieuse, comme ça fut le cas en 1960. Regardez, nous avions un budget de 30% pour l'éducation nationale. Et donc, les 30% de quel budget, quelle était la hauteur? Vous savez qu'à cette période-là, eh bien, les francs congolais rivalisaient avec le dollar. Donc, nous avions un budget bien costaud, mais pour l'éducation, on réservait 30%. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui est réservé? Alors, si nous parlons de la politique salariale, sur le plan technique, la politique salariale va présenter des indicateurs qui permettent de maîtriser les effectifs des agents de l'État, parce qu'aujourd'hui, on ne connaît pas combien d'agents de l'État qui sont employés. Vous posez la question au vice-premier ministre de la fonction publique, je crois qu'il ne sera pas en mesure de vous dire qu'il emploie 1 million d'agents de l'État. Le nombre n'est pas connu. La politique salariale va également nous permettre de fixer les barèmes indicatifs des salaires des différentes catégories professionnelles. C'est vrai qu'un magistrat ne touchera pas le même salaire qu'un enseignant. Et donc tout ça, ça sera dit dans la politique salariale. Il y a également la question relative à la structuration des rémunérations qui doivent être transparentes, cohérentes et équitables. Et je crois qu'un barème salarial digne va véritablement répondre à l'article 12 de la Constitution, tous les citoyens sont égaux, et à l'article 36 de la Constitution qui veut que celui qui travaille puisse avoir un salaire décent, mais aussi à l'article 58 qui parle de la redistribution équitable du revenu national. Tant que cela n'est pas fait, il n'y aura pas moyen de pouvoir restaurer la confiance entre les gouvernants et les gouvernés. Donc nous sommes ouverts à discuter avec le gouvernement pourvu que le gouvernement respecte le principe du départ. En ce moment-là, nous savons que le pays est confronté à beaucoup de défis, mais les syndicats comprennent. Mais en ce moment-là, on saura, dans une approche progressive, comment on peut appliquer ce qui sera décidé au niveau de ces travaux que nous voulons vraiment que ça soit convoqué urgentement.
Alors, Jean Bosco Puna, avant de revenir au standard, je suis tenté de vous poser cette question. C'est pas la première fois que le syndicat des enseignants font ces genres de revendications pour ce qui est de la politique salariale. Mais dites-nous, qu'est-ce qui fait que ça ne marche toujours pas? Qu'est-ce qui fait que vous n'avez jamais trouvé gain de cause?
Bon, pour ceux qui suivent de près ce que nous faisons, évidemment, ceux qui suivent de près ce que font les syndicats qui portent réellement les idéaux, il faut comprendre. Aujourd'hui, lorsque nous parlons de la gratuité de l'enseignement, je crois que c'est une demande sociale. C'est une demande également des syndicats. Nous sommes employés véritablement pour faire voir aux gouvernants qu'il faut absolument appliquer la gratuité de l'enseignement de base. Aujourd'hui, on s'est arrêté au niveau primaire, ce qui est une entorse, parce que la loi cadre de l'éducation revient sur l'enseignement de base, c'est-à-dire il faut prendre la 7e et la 8e année. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné comme ça. Donc nous disons que la gratuité, c'est le combat que les syndicats ont mené, notamment la synergie. Mais il y a également la question relative à la loi sur la protection sociale. Ça, nous sommes véritablement battus et jusqu'à aller rester en justice pour que les enseignants retournent.